France Culture.
Les nuits de France Culture.
Le 10 mars 1906, la France connaissait, avec la catastrophe de Courrières qui causait la mort de 1100 hommes, le plus grave accident minier de son histoire. En 1965, sur Intervariété, dans une émission de Jean Thévenot, témoignait Honoré Couplet, alors le dernier survivant des 14 rescapés de la catastrophe, des miraculés qui avaient survécu au fond de la mine durant 20 jours avant d'être remontés, et plus précisément 24 jours pour le 14e. Après les paroles que nous allons entendre prononcer, Honoré Couplet devait vivre encore 12 années avant de mourir à 91 ans en 1977. Aux 80, témoignage de Honoré Couplet, dernier survivant de la catastrophe de Courrières, première diffusion le 21 janvier 1965 sur Intervariété.
Jean Thévenot vous invite à écouter « Aux 80 », une émission réalisée avec le concours de Henri-Vincent Dulaurier et de l'Association française des chasseurs de sons. Assistant André Mathieu.
Je crois bien l'avoir déjà dit à ce micro et plus d'une fois, mais on ne le répétera jamais trop, que les amateurs de l'enregistrement sonore, alors même qu'ils croient simplement s'adonner à leur violon dingre, accomplissent bien souvent un travail d'intérêt général. Ainsi, leur fréquente quête des souvenirs de personnes âgées ayant il y a longtemps vécu tel ou tel événement enrichit la petite ou même la grande histoire de pages qui, sans eux, auraient peut-être manqué à tout jamais. L'enregistrement qui occupera la majeure partie du programme de ce soir en est un exemple typique. C'est un enregistrement de M. Jacques d'Ernoncourt, ingénieur à Douai et l'un des principaux lauréats français du dernier concours international, qui a demandé à M. Honoré Couplet, alors âgé de 78 ans, d'évoquer ses souvenirs de la grande catastrophe de Courrières dont il était le dernier survivant. Cette catastrophe qui fut pour la France véritablement un deuil national partagé par le monde entier et qui devait brutalement attirer l'attention sur les conditions du travail dans les mines. Mais d'abord, rappelons les faits restés du reste de sinistre mémoire en pays minier. Le 10 mars 1906, dans les mines de charbon de la compagnie de Courrières près de Lens, une explosion entraînait la mort par brûlure ou par asphyxie de 1280 mineurs, l'équivalent de la population totale d'un petit bourg. Ce nombre apocalyptique n'aurait peut-être pas été atteint si les secours avaient pu être organisés rapidement, mais ils furent longuement retardés par le fait que les puits de descente étaient en partie obstrués et les galeries emplies de gaz délétères. Ils ne commencèrent pratiquement que le 13 mars, trois jours après, et encore grâce à l'intervention d'un corps de pompiers venu tout exprès de Westphalie. Le 30 mars, j'insiste sur cette date, le 30 mars, 20 jours après, 13 mineurs étaient retrouvés vivants. L'un d'eux était M. Honoré Couplet, qui avait alors 20 ans. Près de 60 ans plus tard, à son domicile, parmi les bruits familiers de la maison, invité à raconter ce cauchemar vécu d'un lointain passé, il se le rappelait jusque dans ses plus petits détails, comme s'il datait de la veille.
Depuis combien de temps étiez-vous mineur, étiez-vous à la mine quand s'est produit la catastrophe ?
J'ai commencé à l'âge de 14 ans. 14 sur 20, ça fait 6 ans.
Ça s'est produit, je crois, un samedi.
Un samedi, c'est, hein, ça,
c'est bien
oui.
Ça. Vous étiez donc descendu pour faire un poste complet. Les postes duraient combien d'heures ?
8 heures.
Donc le dimanche, vous ne travailliez pas. Vous étiez descendu pour finir la semaine, pour faire ça.
Oui.
Malheureusement, la semaine a été très longue.
Premièrement, ça faisait déjà un moment qu'il y avait du feu, là, à l'étage 303. Moi, j'ai descendu vers 7 heures, quelque chose comme ça. Et il était exactement peut-être 7h15 quand j'étais dans les fronts avec mon cheval et un train de berline.
Oui.
J'ai accroché mon cheval à la berline de terre et j'ai crié. À ce moment-là, j'ai entendu comme un coup de canon un très gros coup, là, suivi d'un nuage de poussière, de fumée, que j'étais devenu sourd, et je ne voyais plus rien pour le moment. Et j'avance, je crie, mon cheval avance peut-être une dizaine de mètres, il arrête. Je me porte en avant pour voir ce qui se passait. Il y avait des billes, des terres, tout ça, des pierres de tomber sur la voie. C'est pourquoi il avait arrêté. Alors, voyant ça, j'ai fait demi-tour. Et le premier que j'ai rencontré, c'était le petit Dubourg. Il était hébété, ce garçon. Alors, il me dit, oui, moi, j'ai entendu le coup aussi. Alors, je dis, nous allons aller voir tes ouvriers. Alors, il m'a conduit à la table de Lefebvre et Noiret. Ils étaient accroupis en position de repos. Eux aussi, ils étaient hébétés. Ils se demandaient ce qu'il y avait. Quand je suis arrivé, ils ont dit, qu'est-ce qu'il y a, s'il vous plaît? Je dis, je ne sais pas. Là, on a entendu le coup. Et on n'entend plus rien, je dis maintenant. Alors, on a rappelé tous les autres. On s'est trouvé à Rouen. Alors, on est descendu le Beurtia. On est parti vers l'accrochage 326, vers la Boëlle, plutôt pour aller à l'accrochage. Oui, mais là, ça faisait déjà mauvais. Il y avait un homme qui respirait, qui était tombé, là, il respirait encore, on a essayé de le sauver, mais nous avons dû nous sauver parce que le mauvais air arrivait déjà.
Oui. Comment vous l'appelez, c'est un nom, je crois, dans le mauvais air, les puteux
Des puteux.
Des puteux.
Le terme de mineur, c'est des puteux.
Des puteux. Ouais.
C'est du gaz. Mais il y a eu trois fausses de prise. Une partie du 2, le 3 complètement, le 4 complètement, une partie du 5. Et les fosses, ils sont à distance d'un kilomètre, 400 mètres, par exemple. On était déjà sans lumière.
Déjà sans lumière.
On était déjà sans
c'était
lumière.
C'était des gaz,
parce que, écoutez bien, après avoir voyagé à droite et à gauche, voyant qu'on ne pouvait plus passer, soit d'un côté c'était les éboulements, de l'autre côté c'était le mauvais air. Alors on s'est mis dans l'espèce d'un cul-de-sac.
Oui.
Et on avait pris des précautions, on avait des lampes, une quarantaine de lampes, là. On a fait comme des sentinelles, il y en a qui ont surveillé, et tant que les autres se reposaient. Oui, mais tout le monde s'est endormi. Alors quand on s'est réveillé, on s'est trouvé sans lumière. J'ai amené d'abord mon cheval, dans la double bourre. Et avec le pic, j'ai frappé.
Oui.
À la tête du cheval, en tâtonnant.
Oui, oui.
J'ai attrapé la bille qui maintient le tour.
Oui.
Mon coup a été amorti, mais néanmoins, j'ai tout de même touché la tête du cheval. Il s'est senti piqué. Il a fait demi-tour et est parti peut-être 15 mètres plus loin. J'étais le rechercher.
Toujours mais, à tâtons, toujours dans l'obscurité.
Oui, j'arrivais dans lui comme ça, alors j'ai fait faire demi-tour.
Et il s'est laissé faire.
Il s'est laissé faire, amené au point de départ.
Oui.
Là. Alors là, on a renversé une berline devant et une derrière, et alors il ne pouvait plus avancer. Et c'est là que Danglot qui l'a fini, il l'a battu.
Ça vous permettait de subsister encore plusieurs jours.
Alors, au lieu d'avoir un couteau de poche, il avait un couteau de tape ce jour-là.
Oui. Hein,
un couteau de tape. Alors, il a taillé dans le derrière. Vous comprenez?
Oui, oui.
Quand le cuir il a fait un trou,
oui, oui.
Et il a découpé. Alors comment on ne pouvait pas voyager? D'un côté c'était le mauvais air, de l'autre côté c'était les éboulements. Nous étions emmagasinés dans le même endroit. Alors on avait coupé il avait découpé les morceaux, puis avec un morceau de fil de fer, on l'avait pendu à un tuyau. Oui, mais quand il fallait casser la croûte, on s'est aperçu que c'était pas bon. Le sang qui coulait, tout ça, alors c'était mauvais. Alors, je ne sais plus qui est-ce qui a dit, mais le gras, il paraît qu'il se conserve mieux que le maigre. Mais aller fouiller pour avoir le gras dans le corps du cheval, c'était gras tout partout.
Mais surtout dans l'obscurité, impossible.
Surtout sans voir clair. Après, quand on a décidé de partir, on a pris du cheval dans nos poches, et puis on est parti. On a laissé là, les trois cadavres, forcément. Et on est parti à la crochasse 303.
Mais
vous dire combien de jours après, je ne sais pas, ça. Là, on entendait du bruit, forcément. Le puits était démoli, alors il tombait de la ferraille, de l'eau, tout ça. Et on croyait qu'on travaillait, les hommes d'Abou travaillaient
pour nous
sauver.
Oui, oui.
Oui. Écoutez bien cette affaire. Alors là, nous voilà partis toujours sans voir clair, nous voilà partis dans l'écurie. Là, on a trouvé de l'avoine et puis du coupage. Et il y avait un cheval qui était tombé, pareil, qui était dans l'écurie, il était projeté à la porte de l'écurie. Et le garde d'écurie, il avait la tête tranchée. On nous l'a dit après, on l'a senti, mais on n'avait pas de lumière, mais c'était au jour avec une
lumière. Vous en avez eu confirmation après la montée.
Oui, parce que délégué Eric, là, il a descendu, même mon frère, il a même descendu avec lui aussi, et il nous a dit, à la goutte de lait, habillé Montédi, Si vous aviez eu de la lumière, qui dit, vous n'auriez pas passé où vous avez passé, parce que vous auriez vu le danger. D'ailleurs, moi, je n'ai pas pu faire tout le parcours que vous avez fait. Et en effet, à l'étage 303, nous avons fait un parcours de 100 mètres dans une boîte plein d'éboulements. En arrivant au bout, c'était un cul-de-sac, c'était un mur, quoi. On a dû rebrousser chemin. En séance, ça fait 22, ça fait 2 km 200, qu'on a fait dans, comme des souris.
Ça devait être absolument épouvantable d'arriver comme ça au bout de cette boîte et puis de vous rendre compte que vous
Justement, c'est pour ça qu'il y a des moments, on avait de l'espoir, mais il y a des moments qu'on était déçus, forcément. À l'étage 303, bon, et tout d'un coup, on entend crier. On a répondu. Les autres sont venus quand ils nous ont entendu crier. On a tous crié. Au bout d'un moment, on n'entend plus rien. Regardez ce que c'est. On s'est dit tous, les uns les autres, il faut les laisser tranquilles, ils viennent pour nous sauver. Mais ce n'était pas ça du tout, puisque c'était les trois qui étaient au-dessus, qui étaient là, qui étaient prisonniers comme nous. Au bout de peut-être 15-16 jours, c'est là que nous avons retrouvé le fils à Prévost. Potier et Boursier, ils étaient là à trois depuis la première journée. Et on est arrivé, nous. Donc, il y avait... Alors, ils ont entendu du bruit. Ils disent, qui est là? Alors Prévost, il dit, Prévost. Et puis les autres, la suite.
Donc il a retrouvé son fils à ce moment-là.
Oui.
Ça devait être vraiment émouvant.
Écoutez, arrivé là, son fils, il dit, c'est toi, papa? Oui, une garçon, il dit, lui. Hein. En patois, quoi. Hein.
Bien sûr.
Oui, une garçon. Alors, voyez ça, quelle scène indescriptible, là. Hein. Ils étaient collés, tous les deux, qui s'embrassaient. Hein. Nous, on ne les voyait pas.
Oui, mais...
Mais écoutez, c'est épouvantable. On riait, on chantait, je ne sais pas ce qu'on faisait pas à ce moment-là.
Ça a dû vous redonner... Ça a dû vous redonner courage.
Tiens, retrouver trois... Et lui, retrouver son fils. Surtout qu'il n'avait déjà rien perdu. On ne savait plus où aller. Boitier, il dit, tiens, quand je suis venu travailler au trois, j'ai été travailler 2-3 jours dans un retour d'air qui conduit à la fosse numéro 2. Un tel, il m'a dit ça, ce retour-là, il conduit au numéro 2. Alors Prévost, il dit, va essayer d'aller par là. Et ça tenait l'issue, quoi, c'est là que nous avons trouvé l'issue. Et en cours de route, moi-même, j'ai visité quelques galibots, des gamins, les fouillés pour voir s'il y avait quelque chose. On a trouvé une fois une orange, deux fois rien, quoi, il n'y avait rien non plus.
Ça devait déjà être beaucoup, trouver une orange.
Ah ouais, oui, mais pour combien? Pour 13 à ce moment-là.
Oui, bien sûr, ça fait à peine un quartier.
Alors, là que nous arrivons à un endroit qui avait des berlines vides et des berlines pleines de charbon. Et c'était des berlines en fer. Tandis que nous, aux trois, c'était des berlines en bois.
C'est ce qui vous a indiqué que
c'est ce qui nous indiquait que nous étions bien sur la concession du numéro 2.
Oui, oui.
Alors on a avancé, et c'était un plan incliné, c'est une descendrie qu'on appelle. Nous sommes descendus, ce plan incliné, par l'air. Et quand nous avons été dans la boîte, nous avons suivi le tuyau d'aérage. Alors il y avait une feignesse, là, une porte d'aérage. Ouais. Et nous sommes avancés, finalement, peut-être à une trentaine de mètres de l'accrochage du numéro 2, il y avait encore une porte qui n'était pas clouée forte, parce qu'on n'aurait pas su la froncer. Et alors, on avait mis des couvertures. Il a fallu faire des efforts, à 13 à l'heure, hein, pour dire d'enfoncer cette porte. Quand cette porte s'est ouverte, l'air était plus fort que nous. Nous avons tous tombé à la renverse. Quand on s'est relevé, on a vu une lumière.
Oui.
Et cette lumière, c'était le garde d'écurie qui sortait de l'écurie. Cette lumière, on aurait dit qu'elle était à 100 mètres d'auteur. Nous sommes avancés sur lui. On lui a demandé quel jour on était. Trois fois qu'on a réitéré notre demande. Troisième fois, il a fait demi-tour sans nous parler. Alors, on l'a suivi. Et peut-être 30 mètres plus loin, nous étions dans l'accrochage. Lui, avec sa lumière, quand il nous a vu arriver là... par exemple, il y avait Prévost qui avait 45 ans, il y avait une barbe de 20 jours, vous vous rendez compte?
Oui, c'était des cadavres étions, vivants.
C'était des vrais cadavres qui se présentaient à lui. Alors, nous étions délabrés, plein de trous, vous comprenez? Et puis maigres. Alors, il a tellement été stupéfait qu'il a fait demi-tour sans nous répondre. Et il paraît qu'il a été malade. On nous l'a dit à la goutte de lait, ils nous ont dit, il est plus malade que vous. Alors, il dit, Malheureux, vous êtes le 30 mars, qui dit, ça fait 20 jours que vous êtes là-dedans.
C'est donc là où vous avez su pour la première fois...
Pour la première fois, vous avez 20 jours qu'on était là.
Jean Thévenot vous a présenté, aux 80, une émission réalisée avec le concours de Henri-Vincent Dulaurier et de l'Association française des chasseurs de sons. Assistant André Mathieu.
Vous venez d'entendre le témoignage de Honoré Couplet, dernier survivant de la catastrophe de Courrières. Première diffusion le 21 janvier 1965 sur Intervariété.